BFM Business présente BFM Climat, l'émission. Les entreprises face aux défis climatiques. Thomas Asportas.
Bonjour, soyez les bienvenus dans BFM Climat, l'émission qui vous aide à réussir votre transition climatique. Aujourd'hui, nous serons près de Nancy, chez Saint-Hubert. La marque de margarine que vous connaissez tous a des objectifs ambitieux de transition climatique. Mais vous allez voir, pour la plupart, assez complexe à mettre en œuvre. Notre reporter Philippe Indolbo est sur place et notre expert viendra en plateau avec ses solutions. Puis nous parlerons tourisme, comment voyager décarboné, comment être raisonnable et continuer à se faire plaisir en voyageant. On va en parler avec deux dirigeants qui ont trouvé des réponses, Laurent Larocca de The Trip et Guillaume Jou de Gringo. Et on terminera l'émission comme toujours avec le journal du climat d'Antoine Poincaré, son regard tranché sur l'actu climatique. BFM Climat, on y va. Et on part donc à Ludres, près de Nancy, chez Saint-Hubert. L'entreprise a des objectifs ambitieux de transition climatique, mais complexes à mettre en œuvre. Philippe Indolbo est sur place avec les équipes de Saint-Hubert.
Aujourd'hui, je me trouve à côté de Nancy, où se trouve l'usine justement derrière moi de Saint-Hubert, un acteur clé des margarines et des produits végétaux en France. Alors face à des défis environnementaux, l'entreprise est engagée dans une transformation ambitieuse. Vous allez le voir, circuits courts, décarbonation et nouveaux emballages. Comment mettre en place tous ces changements? Et bien justement, on va partir découvrir tout ça sur place, derrière moi.
Notre premier défi, c'est la matière première. Il faut savoir que 70 à 80% des émissions de carbone sont sur l'amont, c'est-à-dire sur l'agriculture, la matière première et bien sûr le transport lié à l'acheminement de cette matière première jusqu'à notre usine. Notre défi consiste à améliorer la proximité, la localisation des filières agricoles pour limiter les transports, à travailler sur le sourcing de nos matières premières aussi pour assurer une meilleure pratique agricole qui répondent à nos standards de qualité mais qui vont dans le sens d'une de moindre utilisation de pesticides, l'optimisation de l'usage des terres. Vous êtes ici dans l'espace de stockage en tank de notre matière première, essentiellement de l'huile pour faire de la margarine. Tout ce qui peut être acheté en termes de matière première en France, un des défis c'est d'arriver à localiser et de sourcer uniquement sur la France. On a la chance d'avoir une des agricultures la plus qualitative au monde, la plus respectueuse en termes de pratiques culturelles. Et donc, on a déjà fait beaucoup de choses dans ce domaine et on peut encore aller plus loin. On a certaines filières qui ne sont pas encore en origine française et c'est un de nos défis.
Bonjour Jean-Christophe Sibilo.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en plateau. Merci de nous avoir accueillis sur le terrain de votre usine donc à Ludres de Saint-Hubert. Vous êtes le PDG de Saint-Hubert et vous nous avez rejoint pour qu'on vous aide à avancer dans ces défis. Bonjour Isabelle Alterbali.
Bonjour.
Merci d'être là. C'est vous qui allez essayer d'aider Jean-Christophe Sibilo à avancer. On a vu donc il y a un défi complexe autour de l'approvisionnement des matières premières, arriver à sourcer au maximum en France. Comment est-ce que vous pouvez aider le patron de Saint-Hubert à avancer là-dessus?
Effectivement, l'approvisionnement, comme il le mentionnait, c'est la partie la plus carbonée. Il y a toute une partie qui va être liée à comment j'ai de plus en plus de végétal, notamment dans les produits qui vont être beurrés, mais ils ont déjà fait beaucoup de choses sur la partie margarine. Et puis, comment ça peut être bio et local, de façon locale, ça va être beaucoup travaillé avec les transporteurs et donc des partenaires, mais aussi avec les filières, et donc les filières d'approvisionnement d'huile. Il y a différents types d'huile, il faut regarder pour chacune si on peut trouver sur place ou pas trop loin.
Jean-Christophe Sibilo, qu'est-ce qui vous empêche de tout faire Made in France? C'est qu'on n'a pas forcément toutes les matières premières sur le territoire, c'est le prix, c'est qu'est-ce qui vous empêche d'être 100% Made in France?
Alors, on favorise le sourcing français à chaque fois que l'on peut. Donc, tout ce qui peut être acheté en France, on l'achète en France, y compris les prestations de services. Et pour la matière première agricole, même chose. Il y a certaines matières qui n'existent pas, qui ne peuvent pas être produites en France. D'accord. Donc là, bien sûr, on est obligé d'acheter à l'étranger.
Comme?
Mais comme certaines huiles qu'on appelle concrètes, qui sont solides à température ambiante et qui sont nécessaires pour faire de la margarine. Donc, c'est des huiles que l'on trouve dans des productions qui sont dans des contrées plus exotiques.
D'accord.
Comme les copras, par exemple, qui sont des dérivés de coco.
Ok, ouais, donc ça, pour le coup, là-dessus, vous pouvez.
Donc,
pas...
là-dessus, on peut rien faire. Ouais, par contre, on a déjà créé une filière spécifique de sourcing de matières premières françaises sur le colza. Et notre prochain défi, c'est d'arriver à le faire également sur le lin, qui est une production D'accord. de plus petite envergure sur la France. Et donc, il faut qu'on arrive à créer une filière qui nous est spécifique et qui sécurise nos, nos approvisionnements.
Bon. Il y a ce défi-là qui est un défi évidemment très important pour vous, mais vous devez aussi, c'est un autre défi que vous avez, décarboner l'ensemble de vos process industriels. On retourne sur le terrain voir ça avec Philippine.
De Deuxième défi, décarboner son usine près de Nancy. Saint-Hubert prévoit d'investir 50 millions d'euros sur 8 ans pour réduire sa consommation d'énergie. Ça passera, vous allez le voir, par des innovations, de la sobriété et forcément quelques obstacles à surmonter.
Dans notre stratégie industrielle de décarbonation, on ne va pas s'intéresser uniquement à la partie énergie électrique, gaz ou autre fluide. On s'est intéressé à la globalité de l'entreprise et notamment on s'est intéressé au process de fabrication de notre produit qui est aujourd'hui en tout cas assez consommateur en énergie puisqu'on va devoir refroidir, on va devoir chauffer à plusieurs étapes du processus de fabrication sur des installations qui ont déjà quelques années. Aujourd'hui, on se repose la question comment on peut fabriquer les mêmes produits mais de manière plus vertueuse pour l'environnement en préservant toujours pareil et en consommant le moins de ressources. Et aujourd'hui, on est arrivé, on a abouti à des pilotes qu'on a développés nous-mêmes sur des technologies qui sont issues de d'autres filières industrielles, françaises notamment, pour aller travailler sur des alternatives à la fabrication de ce produit. Ce qui est un vrai défi dans l'agroalimentaire, puisqu'il ne faut pas qu'on touche aux qualités organoleptiques du produit. Donc, et en plus, il y a un aspect réglementaire, bactériologique, qu'on doit respecter.
Alors, Isabelle, c'est très intéressant, je trouve, ce témoignage. Le décarboner, c'est pas juste mettre des énergies vertes, c'est aussi changer les process, et derrière, il faut que les produits suivent.
Complètement, et c'est là que c'est le plus difficile, parce qu'en général, il faut d'abord commencer par essayer de consommer moins d'énergie hein, dans ces procédés, via ces machines, et puis ensuite se dire, est-ce que mon process il peut être complètement transformé? Et là, ça te demande quand même de l'innovation, parce qu'avec des matières alimentaires, il y a quand même un point de fusion, il y a quand même des températures à respecter, et donc comment on arrive à créer la même chose, mais en consommant moins d'énergie, ouais. Ou en repensant le processus. Donc ça, c'est vraiment beaucoup d'innovation, ouais. Et c'est pour ça qu'on parle quand même de pas mal d'investissements, là on le voit dans le reportage, c'est très avancé. La plupart n'en sont pas à ce stade-là.
Ouais, beaucoup d'investissements, beaucoup d'innovations aussi. Et donc, visiblement, vous êtes prêts. C'est ce que dit votre directeur d'usine. Vous avez des alternatives qui sont sur le point de déboucher.
Alors, on a un plan qui est bien ficelé avec un investissement sur la durée qui va nous amener à réduire notre consommation de 65% en 3 ans.
Ouais.
Qui va passer par le monitoring, donc la sobriété énergétique, par la récupération de la chaleur fatale, c'est-à-dire la chaleur qui est mise par les procédés, la réinjecter pour utiliser de l'énergie gratuite dans le process.
Oui, vous auto-alimentez en énergie.
Voilà. Mmh. Et puis le troisième volet, il y a l'isolation, mais le quatrième volet, donc, c'est de retravailler nos process. On a des process par définition qui sont très énergivores, parce que c'est des successions de montée en température et de refroidissement. Et donc, c'est comment on utilise des process qui sont moins énergivores. Mmh. Et on travaille avec des entreprises dont certaines développent des procédés très particuliers et on est en phase pilote pour justement nous permettre d'aller un pas plus loin.
Et la phase pilote, elle doit s'achever quand? Quand est-ce que vous serez prêt, vous pensez là-dessus?
On a plusieurs procédés qui sont en phase pilote et il y en a les premiers qui vont être en phase de qualification, ça sera pour l'année prochaine.
D'accord, ah oui, donc ça arrive là, c'est vraiment imminent. On retourne une dernière fois dans votre usine parce qu'il y a un autre défi, et je trouve qu'il est passionnant à relever, c'est la question de l'emballage.
Troisième défi, proposer de nouveaux emballages pour essayer de sortir du plastique et de l'aluminium. L'entreprise travaille à des alternatives plus durables, des emballages plus facilement recyclables, entre autres. Mais ça, ça demande du temps, ça demande de la R&D et aussi de l'innovation. Et puis, il faut aussi convaincre les clients, surtout, de changer leurs habitudes. Et ça, c'est un défi de taille.
Comme toute industrie agroalimentaire, nous sommes très consommateurs d'emballages et nous faisons beaucoup d'efforts pour réduire notre empreinte en termes d'utilisation des emballages et notamment des matières fossiles. On a réduit très fortement la consommation de plastique sur plusieurs années et notre troisième défi aujourd'hui c'est d'aller encore plus loin dans la réduction du plastique, dans la recyclabilité, dans la promotion de filières qui permet de faciliter le recyclage en simplifiant nos emballages et au niveau des cartons, de réduire les épaisseurs. On a notamment, par exemple, supprimé le filmage de nos palettes qui évite la consommation de plastique de manière assez significative.
On peut voir ici l'évolution des packagings, des barquettes depuis un certain moment, avec le dernier changement en date, où on a réduit de 22% la quantité de plastique sur le couvercle et de 8% sur la barquette. Sur le couvercle, on peut le voir parce que le nouveau couvercle est plus plat, le design a été légèrement modifié. Sur la barquette, on a plutôt joué sur l'épaisseur des parois de la barquette. Aujourd'hui, on arrive aux limites au niveau de la technologie de ce qu'on sait faire en termes d'optimisation. Donc on réfléchit à des pistes plus complexes. On essaye de trouver le meilleur compromis qui impactera le moins le consommateur, nous, la production, mais également la préservation du produit.
Alors Isabelle, on voit bien que c'est compliqué, cette question d'emballage. Ça paraît rien comme ça, mais en fait, il y a plein de paramètres à prendre en compte et très différents. Comment est-ce que vous pouvez aider Jean-Christophe ?
Globalement, pour arriver à aller encore plus loin, parce qu'ils ont déjà fait pas mal, ouais. C'est de faire une démarche d'éco-conception très avancée. L'éco-conception, ça va être comment je repense mon design, ça ils en ont parlé, c'est-à-dire j'utilise moins de matière, et puis dans la matière que j'ai, être sûr que j'ai le moins de matériaux différents possible, parce que plus c'est un seul bloc, plus c'est facile à recycler. Alors que plus j'en ai, ouais. Plus il va falloir faire un tri, et ça va être compliqué, et puis il y a une partie qu'on ne sait pas recycler. Donc arriver à pousser ça jusqu'au bout, c'est une démarche plus avancée, ça demande aussi de la R&D, là sur du packaging, on ouais. En parle moins, mais c'est le pas suivant, et après sur la façon d'utiliser le matériau, est-ce que dans la recyclabilité, il peut être même plus biodégradable ouais. Voilà. Et après, il y a des contraintes avec les normes sanitaires, donc c'est sûr que sur une agroalimentaire, c'est moins simple, mais voilà, cette éco-conception avancée, il y a vraiment de quoi faire.
Et avec quand même un point, et votre responsable R&D en parle, et c'est intéressant je trouve, un point très important à garder en tête, c'est la réaction des consommateurs. C'est-à-dire qu'on a vu des marques qui, pour plein de bonnes raisons, ont voulu changer le packaging, mais derrière, qui ont subi des gros retours de bâton et qui ont dû revenir en arrière. C'est pas, ça paraît rien comme ça, mais en fait, c'est très sensible.
C'est pour ça qu'on parle bien de recherche et développement. C'est pas simplement un ingénieur packaging que vous avez vu. Marielle est rattachée à notre direction de la recherche et développement. On investit beaucoup en recherche et en développement sur les produits, mais le packaging est une composante importante. Et en l'occurrence, ça nécessite de trouver des solutions qui soient non seulement satisfaisantes d'un point de vue de la fonctionnalité, mais aussi acceptées.
C'est ça.
Par les consommateurs. Donc, c'est un vrai défi d'éco-conception, comme l'a dit Isabelle, qui nécessite de travailler de manière intime avec nos fournisseurs d'emballage pour trouver des solutions d'avenir.
Bon, eh ben, ce sera le mot de la fin, des beaux défis à relever. Et donc là, des étapes importantes à franchir l'an prochain. Merci à tous les deux.
Merci.
Isabelle Aterbaï, directrice climat de BPI France, et Jean-Christophe Sibillot, PDG de Saint-Hubert. Allez, merci. On a parlé agroalimentaire, on va parler maintenant voyage et tourisme. Comment voyager sans culpabiliser ? Comment continuer à se faire plaisir en voyageant alors que le tourisme est un très gros émetteur de CO2 ? On en parle avec deux chefs d'entreprise qui ont trouvé des solutions et qui veulent les partager avec vous. Bonjour Laurent Larocca.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le PDG fondateur de The Trip. Et bonjour Guillaume Jouffre.
Bonjour Thomas.
Merci d'être là aujourd'hui avec nous sur BFM Climat. Vous êtes le PDG cofondateur de Gringo. Laurent Larocca, je commence avec vous. Très concrètement, quelle est votre solution pour réduire les émissions carbone des voyages ?
Alors on a créé un logiciel de réservation qui permet aux voyageurs d'affaires d'être éclairés sur les différentes solutions qu'il peut avoir pour voyager, pour faire son voyage d'affaires. Et on va mettre en avant les moyens bas carbone, c'est-à-dire ouais. évidemment le train, ouais. les hôtels éco-responsables, mmh. les voitures électriques à louer. On va tenter de nudger, de l'influencer aussi dans son comportement.
Nudger, pardon, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire influencer le comportement. Ça veut dire littéralement coup de pouce en anglais.
Ah, d'accord, ok. Voilà.
Et en le sensibilisant et en l'aidant à mieux comparer effectivement des trajets, par exemple, porte à porte, qui peuvent être faits en avion ou en train. Mm-hmm. Et en mettant cette perspective-là, vous savez que le train, les gares sont en centre-ville, donc sont plus proches souvent de la destination.
Okay.
Et on peut arriver comme ça à mieux comparer les voyages et d'accord. prendre les bonnes décisions.
D'accord, mais donc tout ce que vous expliquez là, vous parlez du train notamment, évidemment, quand on pense voyage, on pense avion, enfin pour les émissions carbone, donc ça reste pour du domestique ou du continental, quoi.
Absolument. Mais après, quand on voyage en avion, il y a aussi des moyens d'optimiser. Hein, il y a des compagnies aériennes qui ont des pratiques qui sont meilleures que d'autres. Mm-hmm. Si on prend un vol direct, si la compagnie va avoir l'utilisation de carburant d'aviation durable, des aéronefs qui sont récents.
D'accord. Donc ça, vous le proposez aussi.
Absolument.
D'accord. Ok.
Exactement.
Et alors, après, on va parler de chez vous, idem, ce que vous faites chez Gringo. Mais est-ce que les entreprises elles jouent le jeu ? Est-ce qu'elles ont vraiment envie de verdir les voyages de leurs collaborateurs ou pas ?
Les entreprises sont aussi soumises à une réglementation qui se durcit, avec notamment la CSRD qui est là.
On a toujours en débat, hein, mais bon.
Ça arrive. Voilà.
Ouais.
Beaucoup d'entreprises aujourd'hui, à partir d'une certaine taille, ont l'obligation de faire un bilan carbone, donc de montrer qu'elles font des efforts. Et après, je pense qu'au-delà de la réglementation, ce sont aussi les personnes, en fait. Quand on va travailler dans une entreprise qui prend... des actions pour lutter contre le réchauffement climatique sur le secteur du transport qui représente quand même en France 30% des émissions de gaz à effet de serre, donc c'est important. Donc quand on a des convictions personnelles, on a envie d'aller au travail et de retrouver une entreprise aussi qui nous permet d'être dans la continuité de cet engagement.
Bon, vous chez Gringo, idem, même question que je posais à Laurent, comment vous faites pour aider les voyageurs à voyager décarboné ?
Alors ben nous, on est la première plateforme de vacances éco-responsables en France. Donc déjà, on réunit de l'offre. On réunit plus de 16 000 hébergements éco-responsables sélectionnés parce qu'ils sont éco-responsables avec toute une démarche qu'on évalue sur 113 critères écologiques. Mais surtout parce qu'ils ont quelque chose de sympa qui donne envie.
Donc c'est vous, qui dites quels hébergements sont éco-responsables ou pas.
Ouais, nous, on a toute une grille d'évaluation sur 113 critères, en tout, et on a aussi un CO2 score, un éco-score qui vient qualifier la démarche. Mais on réunit une offre de qualité avant tout, parce qu'il faut donner envie. Et l'enjeu, c'est de maximiser le plaisir tout en minimisant l'impact. Et aujourd'hui, on a des séjours qui sont notés 4,8 sur 5 en moyenne, sur plus de 15 000 avis clients.
D'accord.
Et on a des séjours qui aussi ont 6 fois moins d'impact carbone que la moyenne des séjours des Français. Donc,
vous arrivez à mesurer ça?
Comme quoi, voilà, ça, c'est des enquêtes que l'on fait auprès de nos voyageurs sur comment êtes-vous allé sur place, qu'avez-vous fait à destination, etc. Qui nous permettent d'estimer, par rapport à la moyenne des résidents français en général, quelle est la déviation par rapport au cas classique.
Oui. Et alors, là-dessus, idem, est-ce que vous avez l'impression pour l'instant de vous adresser à une niche de touristes? Ou est-ce que vous sentez que ça peut devenir la nouvelle norme du marché, ça?
Je pense que ça sera progressif. Bien sûr, il faut commencer par le commencement. On va d'abord avoir des gens qui ont une sensibilité écologique, mais pas que. Justement, nous, le vrai vecteur de transformation, c'est de donner envie. Et nous, d'abord, avant de dire que les logements sont éco-responsables, on dit, regardez, ces logements sont incroyables, regardez comme ça donne envie, regardez les avis clients. D'accord. Et la vraie clé, c'est de donner envie, de donner du désir. Parce que c'est ça l'essence du voyage en réalité.
Bah, complètement.
Et à nous de faire le travail derrière, d'avoir l'équation carbone qui tourne sans même forcément la montrer.
D'accord, intéressant. C'est comme ça que vous vendez vos solutions en fait. C'est le plaisir avant l'écologie. L'écologie, on la met c'est pas l'argument de vente.
Voilà, c'est un argument de réassurance, on va dire. C'est pas l'argument de vente numéro un. Si je dis à quelqu'un dans la rue, je vais vous vendre des logements éco-responsables, il va me dire oui. Par contre, s'il y a quelqu'un dans la rue, je vais vous vendre des vacances incroyables.
Ouais.
Et en plus, ça va être beaucoup moins émetteur, beaucoup plus respectueux de la planète. Mmh. Là, tout de suite, les gens signent.
Voilà. Alors que vous, pour le coup, parce que on voit bien que vous adressez pas aux mêmes populations. Vous, c'est le grand public et vous, c'est les entreprises. Vous, c'est vraiment pour le coup le résultat carbone que vous vendez.
Ouais, c'est vrai que nous, on parle d'un voyage utile plus qu'un voyage plaisir. Effectivement, Guillaume. Être un sujet de plaisir, de fascination, le voyage, découvrir de nouveaux endroits. Nous, c'est plutôt, on a besoin de se déplacer pour travailler, pour collaborer, pour échanger, pour se former, pour faire des kick-offs. Donc, c'est un peu plus sérieux, on va dire. Mais ça n'empêche que on peut avoir cette envie aussi de redéfinir le modèle, l'imaginaire. Guillaume parlait de désir. On peut créer du désir d'aller dans un endroit qui est superbe et en même temps éco-responsable. On allie les deux. Mais c'est de la même manière, on peut réinventer un peu le modèle du businessman ou de la businesswoman aujourd'hui qui voyage, qui a envie aussi dans son déplacement de limiter ses impacts.
Ouais.
Et de s'éloigner un petit peu, vous savez, de ce voyageur d'affaires, ce stéréotype qui accumule des miles sur sa Flying Blue, qui voyage dans une grosse voiture tout seul, faire de l'autosolisme comme on dit. On peut réinventer aussi cette manière de consommer la mobilité et d'être très fier d'avoir cette conscience écologique lorsqu'on se déplace pour le boulot.
Intéressant. Et vous faites du conseil aux entreprises là-dessus, justement, pour qu'ils redéfinissent un peu leur voyage d'affaires? Vous en êtes pas là?
Alors, on a créé, j'ai fait partie de la CEC, Thomas, comme vous le savez, la Convention des entreprises pour le climat. On a aussi créé un collectif des mobilités durables avec d'autres entreprises de conseil, justement, et on accompagne les entreprises. C'est les membres de ce collectif qui sont des entreprises de conseil. On accompagne, justement, les entreprises pour qu'elles redéfinissent un peu leur modèle. Qu'on soit pas simplement sur un modèle d'achat, acheter toujours moins cher. C'est un peu la même chose aussi dans le tourisme. Le prix est vraiment un prisme qui est souvent écrasant par rapport aux autres critères de choix. Mais on les accompagne pour qu'elles aient aussi d'autres prismes, la productivité et aussi l'écologie, diminuer son impact pour encore une fois attirer des talents. Quand vous avez des collaborateurs qui viennent dans votre entreprise et qu'ils constatent que l'entreprise prend aussi des engagements pour la biodiversité, pour le social, pour la lutte contre le réchauffement climatique, vous vous y sentez bien, vous avez envie de rester dans cette entreprise et vous accordez un peu vos convictions personnelles avec vos convictions professionnelles.
Alors donc tous les deux, on voit bien que vous essayez de réinventer les modèles d'affaires de votre secteur, du tourisme. Est-ce que pour vous, ça veut dire que partir loin, c'est fini? Est-ce qu'il faut renoncer à ça?
Je pense pas que partir loin c'est fini. De toute façon, ça serait contredit très rapidement par la demande touristique actuelle. En revanche,
c'est sûr quand on voit les taux de croissance de l'aérien.
Voilà. Oui, bon. En revanche, avoir un mix aussi élevé du lointain tel qu'il est aujourd'hui ne ne pas compter le CO2 dans l'équation de manière générale, hein, dans l'industrie et puis dans la société de manière plus générale, ça, on sent bien qu'on arrive au bout. Il n'y a qu'à voir les paramètres climatiques pour s'en convaincre. On voit bien qu'on va être rattrapé par les phénomènes naturels au bout d'un moment. Mmh. Et donc, l'enjeu, une fois qu'on sait ça, hein, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut réconcilier cette envie, hein, qu'on a, ce besoin de s'évader, de faire autre chose, de se dépayser. Ouais. Et cet impact environnemental, comment, qu'est-ce qui est facile finalement? Et en fait, aller moins loin, premièrement, c'est bête, hein, mais ça répond parfois à des mêmes besoins que d'aller loin. Et donc, il n'y a pas forcément besoin d'aller au bout du monde pour se dépayser. À 2, 3, 4 heures de chez soi, on peut aussi trouver chaussure à son pied d'un point de vue dépaysement. Et donc, c'est ça qu'il faut aussi arriver à démocratiser, hein, c'est ce besoin sur quoi on se rue comme offre touristique dès qu'on a une envie de voyage. Bah ça, il y a moyen de réduire par 100 la note carbone sur tout un tas d'envies, et ça on le voit tous les jours nous, dans notre activité.
En fait, c'est un peu dans la tête, quelque part dans la tête des gens, c'est-à-dire qu'on se dit obligatoirement faut aller très loin pour se dépayser. Mmh. Et finalement on peut à peu près, alors ça marche pas toujours, mais on peut à peu près trouver les mêmes choses près de chez soi.
Alors il y a un point qui est important à faire ici, c'est qu'on a la chance d'être sur un continent, le continent européen, qui est formidable pour deux raisons. Première raison, c'est qu'il y a une quantité astronomique d'actifs touristiques, hein, que ce soit patrimoine, culinaire, culturel, naturel. Ouais. Et on a le meilleur réseau ferré au monde, le plus dense, avec le plus de gares.
Facile de voyager vers.
Et voilà, il y a une opportunité de voyager vers bas carbone qui est phénoménale sur ce continent.
Ce n'est pas le cas aux États-Unis,
voilà, comme le continent américain notamment.
Ouais.
Et donc, c'est une opportunité, voilà, depuis la France, on peut rayonner dans toute l'Europe, notamment l'Europe de l'Ouest, hein, en train aujourd'hui en quelques heures. Ça, c'est une chance phénoménale. Et donc, c'est une vraie opportunité.
Laurent Roca, le mot de la fin pour vous en 30 secondes.
Nous, on s'est donné comme mission chez The Trip, voilà, de contribuer à cette transition vers une mobilité durable, tout en préservant les liens sociaux. Parce que c'est vrai, on a besoin de voyager, on a besoin de se rencontrer, ouais, de travailler ensemble. Et c'est pour ça qu'on a même imaginé un algorithme qui s'appelle Stay or Go, ouais, vous pouvez le trouver sur notre site, qui permet de savoir si c'est mieux de faire une réunion en présentiel ou en distanciel. Parce que c'est vrai qu'on a besoin de se déplacer, il ne faut pas renoncer au voyage, mais il faut le faire quand c'est essentiel. Et pour nous, c'est ça, la définition du voyage responsable, c'est un voyage qui est essentiel, bas carbone et simple à faire.
Eh ben, le message est passé pas mal, votre formule Stay or Go. Merci. Et puis, si ça aide à décarboner les voyages, on est preneur. Merci à tous les deux, Laurent Laroca, donc de The Trip, et Guillaume Jouffre chez Gringo. On accueille maintenant Antoine Poincaré pour son journal du climat. Bonjour Antoine.
Bonjour Thomas.
Directeur de l'AXA Climate School. Antoine, on commence cette semaine avec des images impressionnantes du campus de Pepperdine près de Los Angeles, pris dans les flammes la semaine dernière et pourtant les élèves n'ont pas été évacués.
Oui, regardez, on a du mal à en croire nos yeux. Les flammes encerclent le bâtiment qui est en fait la bibliothèque du campus et pourtant les élèves restent très calmes. La seule différence avec d'habitude, c'est qu'ils portent des masques de protection. Et en fait, c'est comme ça que ça se passe sur ce campus. C'est une procédure qui a été mise en place en 1985. Elle s'appelle Shelter in Place, c'est-à-dire trouver refuge sur place. On n'évacue pas les étudiants, on les protège dans des bâtiments renforcés. L'idée à l'époque, c'était de dire que évacuer quelques milliers d'étudiants d'un coup qui n'ont pas tous de voiture, qui n'ont pas tous de point de chute sur place, allait engorger les routes et les mettre plus en danger. Donc on a préféré, avec les pompiers, mettre en place une procédure, élargir par exemple les routes internes du campus qui servent de coupe-feu, débroussailler aussi beaucoup plus et puis évidemment protéger les bâtiments. Une mesure d'adaptation au changement climatique assez inédite, on pourra pas la répliquer partout, mais jusque-là ça marche et ça protège, comme dans le cas la semaine dernière de l'incendie Franklin, jusqu'à 8000 étudiants.
Bon, image évidemment très impressionnante. On parle maintenant d'un secteur, bon, on vient d'en parler avec mes invités, le tourisme, puisqu'une nouvelle étude estime son impact à 9% des émissions mondiales.
Oui, 9% des émissions mondiales, c'est-à-dire presque 5 milliards de tonnes, un peu plus même de 5 milliards de tonnes, et ça continue à augmenter 3 à 4% par an, alors que les émissions mondiales, elles, se stabilisent. Alors, ce qui pèse très lourd dans ces 5 milliards, c'est évidemment le transport, 55% des émissions, c'est beaucoup l'aviation, et puis les voitures, parce que beaucoup du tourisme, c'est aussi au sein de son propre pays. Alors vous allez me dire, on fait des progrès, les voitures s'électrifient, on a plus d'efficacité énergétique sur les avions, oui, mais ça ne suffit pas. Une des auteurs de l'étude a notamment déclaré, les technologies n'offrent aucune chance d'atteindre le zéro émission à temps. Alors si on regarde maintenant du point de vue des pays, le top 20 des pays représente 75% de ces émissions. Là-dedans, on retrouve les géants attendus, la Chine, l'Inde, les États-Unis, mais aussi, et c'est plus étonnant, des petits pays à très haut niveau de revenus comme l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis. On a aussi la France dans le top 20 qui représente à peu près 2% des émissions du tourisme mondial, c'est-à-dire un peu plus que notre part naturelle dans ces émissions. Les auteurs nous préviennent que si on ne fait rien, eh bien les émissions auront doublé dans 20 ans, ça voudrait dire 10 milliards de tonnes en 2045, c'est-à-dire quelques années avant l'objectif de neutralité carbone de l'accord de Paris. Il va bien falloir faire quelque chose pour réduire la demande de tourisme.
Et pour finir, Antoine, l'Espagne introduit un nouveau type de congé pour les travailleurs, les congés payés climatiques.
Et oui, c'est une des conséquences de l'épisode de goutte froide qui a eu lieu fin octobre à Valence et qui a fait 230 morts. Le gouvernement espagnol a passé un paquet de mesures pour adapter le code du travail au changement climatique. Et celle qu'on a beaucoup retenue, c'est l'idée de ces congés payés par l'État. En cas d'alerte climatique, vous pourrez prendre, enfin vous non, mais les Espagnols pourront prendre jusqu'à 4 jours, que ce soit une alerte issue de votre mairie, de la région ou du pays, ça suffira à mettre tout le monde au chômage technique. Évidemment, ça s'anticipe, ça va coûter assez cher à l'État, ça s'anticipe aussi côté entreprise, pardon, parce qu'il va falloir anticiper des collaborateurs qui ne viennent plus travailler. Ça arrive aussi un petit peu en France, on peut penser par exemple à Cannes, dont le maire avait décidé de fermer les écoles juste avant la Toussa pour une alerte inondation. Finalement, il n'avait pas plus. Évidemment, tout ça, ça dérange pas mal le monde parce que des écoles qui ferment, c'est souvent des parents qui ne peuvent pas aller travailler.
Ça nous rappelle quelque chose au moment du Covid. Merci, merci beaucoup Antoine et merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci aussi à la CEC, comme toujours, pour son aide précieuse dans la préparation de cette émission. Je vous souhaite, toute l'équipe de BFM Climat vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. On se retrouve bien sûr début janvier et d'ici là, et bien donc passez très bonnes fêtes et on garde contact sur l'appli BFM Business en podcast et sur les réseaux sociaux. À très vite.
BFM Climat, l'émission sur BFM Business.